Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Il sera inhumé aujourd'hui à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. Lui, c'est Mutombo Dikembe, la légende congolaise de basketball mondial, décédé à l'âge de 58 ans. Des cérémonies sont organisées, notamment à Kinshasa, pour rendre un dernier hommage à celui qu'on appelait affectueusement « Mon Mutombo ». Ituri, plus de 11 000 personnes sont retournées à Mwanga depuis décembre 2023. C'est le résultat de l'engagement pris par le groupe armé FPIC pour la cessation des hostilités ainsi que la présence des FARDC dans la zone. Notez que Mwanga a été le théâtre des violences armées il y a un peu plus d'une année. Et puis, l'hôpital général de référence de Kailo dans le Maniema, dans un état de délabrement très avancé. En outre, cet hôpital n'est pas équipé et manque des médicaments pour la prise en charge correcte des malades. Le médecin directeur lance un SOS, Dr Dunia Sakamba, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par ces hommages rendus à Mutombo Dikembe. Décédé le 30 septembre dernier, il sera mis en terre ce samedi 12 octobre à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. Ici à Kinshasa, une double veillée mortuaire a été organisée la nuit dernière, simultanément au gymnase du Stade des Martyrs de la Pentecôte et à l'hôpital Biamba Marie Mutombo dans la commune de Massina, hôpital construit par l'ancienne star de la NBA. Vanessa Nkongolo y était, voici son reportage.
À l'hôpital Marie Biamba Mutombo, la tristesse est grande. Les effigies des Mutombo sont partout. Dans la cour de l'hôpital aménagée pour la veillée mortuaire, les agents, les notables et habitants de Massina défilent pour rendre hommage aux philanthropes qu'ils ont ou pas vu de son vivant.
De vie, je ne les connais pas. Mais pour moi, je vois les résultats, c'est un bon.
De son vivant, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé cet hôpital. Il disait toujours, je passe tout mon temps dans les avions pour vous chercher des matériels, il faudra protéger, donc il aimait beaucoup son hôpital.
De Massina, nous nous rendons au gymnase jumelé du Stade de Martyrs. Ici, les sportifs, les autorités et membres de la famille sont réunis pour rendre hommage à la légende de la NBA. Une cérémonie d'hommage organisée par le ministère congolais des sports. La chorale symphonique kimbanguiste et Moïse Mbillé ont animé cette soirée. Ceux qui sont passés entre ses mains promettent de pérenniser sa mémoire.
Ici aujourd'hui je suis basketteur, c'est grâce au grand frère que je suis passé par les mains de Dikembe Mutombo. Comme vous m'appelez président, c'est déjà je suis en train de continuer ce que j'ai reçu venant de lui.
Pour rappel, Mutombo Dikembe est décédé à l'âge de 58 ans d'une tumeur au cerveau.
Au sud Kivu, pendant ce temps, les jeunes avouent de Calais et pleurent leurs parents, frères et sœurs victimes de la noyade du 3 octobre dernier dans le lac Kivu. Vêtus en noir, ils ont organisé des manifestations vendredi après-midi sur la place de l'Indépendance dans la ville de Bukavu. À cette occasion, ces jeunes réclament la réhabilitation de la route nationale numéro 2, axe Kavu-Moussaké, la mise en disponibilité des canaux rapides pour la population de Calais et la libération du tronçon Minova-Saké occupé par le M23. On écoute à ce sujet Prudent Muroula Chanvou, président des jeunes Havu de Calais et Littoral, propos recueillis par Rachel Kiesé.
Le symbole qu'on est en train de faire présentement, c'est juste un deuil communautaire en mémoire de nos parents, mères, frères et sœurs qui nous ont laissés à travers la récente noyade qui se vit sur les lacs Kivu au niveau de Minova et Goma. Alors nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas faire passer inaperçu cette énième catastrophe qui venait encore de frapper le territoire de Calais. Lors de la noyade au niveau de Mukwija, le président de la République avait descendu à Mukwija. Il avait promis la construction urgente de la RND Bukavu-Sake, mais jusqu'à maintenant, aucune concrétisation. Il avait en même temps promis de doter au territoire de Calais les canons. Ces canons, nous les voyons faire des courses Goma, Bukavu, mais à Calais, on n'a jamais vu. Mais si on pouvait en avoir, ils pouvaient tant soit peu essayer de réduire les risques qu'il y a sur les lacs Kivu.
Par ailleurs, nous apprenons un autre accident de navigation survenu dans le territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. Au moins deux personnes ont perdu la vie et deux autres portées disparues dans le naufrage d'une pirogue de pêche. C'était dans la soirée de vendredi sur le lac Édouard. Le drame est survenu au large des côtes de l'enclave de pêche de Vichumbi dans le parc national des Virunga. Selon une source de la coopérative des pêcheurs des Virunga Kopevi, la pirogue provenait de Lunyasenge dans le territoire de Lubero, où son moteur en panne devait être réparé, improvisé. Les passagers qu'on a recueillis vers Vichumbi, c'était une dizaine de personnes. L'embarcation aurait connu une nouvelle panne à moins de 500 mètres du quai d'accostage. Le corps d'une jeune femme et de son enfant ont été retirés des eaux, alors qu'un homme et une autre femme sont comptés parmi les disparus. Les recherches se poursuivent, indique la même source. Je vous le disais en titre, en Ituri, plus de 11 000 personnes sont retournées dans le groupement Mwanga depuis décembre 2023. C'est dans la chefferie de Babo à Bokoe, dans le territoire d'Irumu. D'après les autorités coutumières locales, cela est consécutif au respect de la signature d'accord de cessation des hostilités par le groupe armé FPIC et la présence des militaires des FARDC dans la zone. Il y a un peu plus d'une année, la région de Mwanga était le théâtre de violences armées et a occasionné le déplacement de plusieurs familles vers d'autres localités. Jean-Claude Lowe, qui revient de la région, voici son reportage.
Mwanga, jadis ce théâtre des affrontements entre les différents groupes armés, renaît de ses cendres. Des maisons qui étaient incendiées sont de nouveau reconstruites. Des boutiques ont réouvert leurs portes. Écoles et structures sanitaires sont de nouveau opérationnelles. Isaac Kimbabo est le chef de l'entité.
Toutes les communautés fréquentent ces milieux. Les jeunes viennent ici, ils passent la nuit à Mwanga, partagent un verre ensemble, puis ils repartent le lendemain sans problème. Il n'est pas question de demander l'identité de telle ou telle autre personne. Ça, c'est du passé.
Des marchands en provenance de différents coins du territoire de Djougou et d'Irumu fréquentent de nouveau ce milieu. Les uns viennent se ravitailler en produits vivriers, d'autres pour les affaires. C'est le cas de ce conducteur de taxi moto qui salue cette accalmie.
Ces derniers temps, tout se passe bien. Nous circulons sans problème. Je souhaite que cette accalmie perdure pour que nous puissions circuler librement comme par le passé.
La population demande aux autorités de pacifier totalement cette région où beaucoup de défis sécuritaires restent à relever en mettant en œuvre le programme des DCS. De retour des Mwanga, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Kapi.
Rendons-nous dans le territoire de Nyiragongo, au Nord Kivu. 5 présumés bandits ont été arrêtés et 5 armes de type AK-47 récupérées. C'était le jeudi soir par les forces de l'ordre dans une maison au village Ngangi 2, groupement Munigi. Les sources administratives de base parlent d'une fouille qui a été menée par la police en réponse aux alertes de la population. Une opération qui, pour le secrétaire exécutif de la société civile de Nyiragongo, renforce la collaboration civilo-militaire dans cette zone en à l'insécurité. Écoutez plutôt Thierry Gassissiro, joint par Bernard Nyangi.
Nous saluons cette bonne et étroite collaboration qui commence déjà à porter de bons fruits dans les territoires de Nyiragongo entre la population et les services de l'ordre et de sécurité qui vient de réaliser un travail de titan ce 10 octobre 2024 où après plusieurs alertes, la police a procédé aux fouilles systématiques des maisons suspectes des bergers de bandits. C'est le village Ngangi 2 ainsi que des villages environnants qui subissaient de temps en temps des cas d'incursion, des cambriolages des maisons. Nous encourageons les autorités de la police à continuer à fouiller des maisons suspectes partout dans le territoire de Nyiragongo qui pourraient héberger des bandits. Et c'est ainsi que l'on pourrait mettre fin à cette insécurité. Mais également, nous demandons aux services de la justice, maintenant aussi, de faire leur part de travail afin de punir pédagogiquement tous ces bandits impliqués d'une manière ou d'une autre dans ces genres d'insécurité dans le territoire de Nyiragongo.
Merci de nous recevoir à Kisantu, dans la province du Congo central. Ici, un chauffeur de camion remorque vient d'être condamné à 8 mois de servitude pénale. Verdict rendu par le tribunal de paix de Madimba Inkisi à l'issue d'une audience publique. Il est reconnu coupable de rébellion, destruction volontaire et ivresse pour avoir agressé des agents de la police de circulation routière en plein service. Le responsable de la PCR à Inkisi qui a porté cette affaire en justice salue ce verdict. Pour le major John Kibangu, cette
décision de la justice tombe à point nommé pour décourager les agressions courantes dont sont victimes des policiers de circulation routière de la part des camionneurs. Nana Plurich Mambou, au reportage.
En plus de son emprisonnement, ce chauffeur poids lourd nommé Jean-Marie Polo d'environ 30 ans doit aussi payer une amende de 500 000 francs congolais et verser les frais de dommages et intérêts s'élevant à 4 millions de francs congolais répartis comme suit. 2 millions pour un agent PCR blessé et 2 millions pour un autre plaignant avec des frais judiciaires à régler dans les 15 jours suivant la décision. En effet, le camionneur Jean-Marie Polo avait laissé son véhicule sur la route nationale numéro 1 à Kikonka le dimanche soir du 6 octobre pour se rendre chez sa maîtresse, ce qui avait entraîné un embouteillage empêchant les passages aisés des véhicules. À son retour, il a agressé violemment en compagnie de ses convoyeurs des agents de la police présents près de son véhicule, endommageant leur téléphone et leur infligeant des blessures. Le major John Kibangu, responsable de la PCR d'Inkissi, salue la décision de la justice qui va servir de leçon à d'autres usagers de la route qui oseraient de se comporter de la sorte devant un agent de l'ordre. Pour lui, cet incident est la preuve éloquente des agressions courantes dont les PCR sont victimes de la part des chauffeurs et des motocyclistes. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Justice toujours, envoie en fixation du dossier de l'opposant politique Seth Kikuni devant le tribunal de paix de Kinshasa Gombe par le parquet général. En attendant la date du procès, le cadre de concertation des forces politiques et sociales exige du gouvernement la libération immédiate de cet opposant politique. Dans une déclaration hier à l'issue d'une réunion, le cadre de concertation pense qu'il n'y a aucune garantie d'un procès équitable ni d'un jugement impartial de la part d'une justice tirée par la corde, selon ses propres termes, rappelant que Seth Kikuni est accusé d'incitation à la désobéissance civile et de propagation présumée des faux bruits. On écoute à ce sujet le porte-parole du cadre de concertation, Kasongo Ilunga, dans cet extrait proposé par Jeff Ngoy.
Le cadre de concertation des forces politiques et sociales a appris avec étonnement la fixation du dossier de M. Seth Kikuni devant le tribunal de paix de Kinshasa Gombe, et ce, malgré son pressant appel au gouvernement à libérer sans condition le concerné et tous les opposants arrêtés et détenus illégalement pour leur opinion politique dissidente. Le cadre de concertation réitère sa vive condamnation de l'arrestation et de la détention de M. Seth Kikuni, ainsi que le poursuivre suite politico-judiciaire engagée contre sa personne en violation flagrante de ses droits fondamentaux lui garantis aussi bien par la Constitution que par les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme. Il dénonce l'instrumentalisation politique d'une justice aux ordres qualifiés de malades aux fins de taire toutes les voix discordantes.
Parlons santé à présent. Dans la province du Tanganyika, une dizaine des cas confirmés de rougeole sont enregistrés dans la zone de santé de Manono à la 40e semaine. C'est confiant ce samedi à Radio Kapi. Le médecin chef de zone de santé indique que MSF France a doté des médicaments et la prise en charge est gratuite. Docteur Patrice Sango lance ici un message de sensibilisation à la population pour prévenir cette maladie. Il est au micro de Paulin Munanga.
Depuis la semaine 36, on avait commencé à notifier les cas de rougeole. Il y a la semaine 37, on avait 27 cas suspects de rougeole. Il y a la semaine 38, c'était 29 cas de rougeole. La semaine 39, on avait un peu chuté à 12 cas suspects de rougeole. Et la semaine 40, on a notifié 20 cas de rougeole. Ces cas-là, on avait pris des échantillons qu'on avait envoyés au laboratoire et plus de 10 cas a été déjà positif. La prise en charge est gratuite. Nous avons réussi une dotation de médicaments pour la prise en charge des cas de rougeole simple et même des cas de rougeole compliquée de la part de MSF France. Et on continue donc à sensibiliser la communauté parce que la rougeole c'est une maladie qui est contagieuse et que si un enfant atteint de rougeole, il peut contaminer les autres. S'il y a des enfants dans la communauté avec éruption cutanée, fièvre, qu'on les amène le plus tôt au niveau de la structure sanitaire la plus proche.
Santé toujours. Au Nord Kivu, tous les enfants concernés par la vaccination contre la poliomyélite seront vaccinés malgré le contexte sécuritaire volatile dans les régions de Beni, Butembo et Lubero. Cette assurance est du chargé de communication de la division provinciale de la santé, antenne de Butembo, qui couvre toute la partie grand nord de la province du Nord Kivu. Selon Damoulou Havo, toutes les dispositions sont déjà prises pour permettre à tous les enfants âgés de 0 à 59 mois d'accéder au vaccin lors de la campagne qui a débuté le jeudi 10 et se clôture ce samedi 12 octobre. Damoulou Havo, joint par Grévis Saloumou.
Par rapport à la vaccination des enfants en déplacement, tous seront vaccinés là où ils habitent. Et on ne va pas demander à ceux qui rentrent là où ils habitaient avant. Partout, même dans des cas de déplacés, il y a des sites qui sont déjà connus au niveau de chaque entité sanitaire. Et le vaccin a été déjà déployé partout, même dans des lieux sécurs, même dans des lieux très éloignés.
Nous remercions tout le monde qui s'est impliqué par rapport à ça, puisqu'il y avait quelques soucis par rapport même à l'accès à ces zones de santé, aussi du territoire de Lubero, voire même dans le secteur de Bapere. Et nous saluons ici l'implication des autorités politiques administratives, le partenaire et tout le monde.
Par ailleurs, sachez que 31 zones de santé sur les 34 que compte le Nord Kivu sont concernées par la troisième phase de campagne nationale contre la poliomyélite qui se clôture aujourd'hui. Écoutons à ce sujet le coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination PEV, Dr Hans Batei, est au micro de Bernardin Nyangui.
La vaccination a commencé à partir du 10 jusqu'au 12 octobre 2024 dans 31 zones de santé sur les 34 de la province, puisque les trois zones de la ville sont en train d'organiser la réponse vaccinale contre Mpox. Il s'agit de Goma, Karisimbi, Nyiragongo. Cette vaccination contre la polio dans les 31 zones de santé concerne les enfants de 0 à 59 mois. On va renforcer la surveillance et la vaccination de routine pour rattraper les enfants à zéro dose et les enfants sous-vaccinés. Et pour le moment, ça évolue bien. Nous sommes en train de récolter les données journalières par rapport à cette vaccination.
Actualité internationale.
Le Tchad, déjà fragilisé par des crises alimentaires récurrentes, fait face à une nouvelle tragédie. Des pluies diluviennes ont frappé l'ensemble des 23 provinces du pays, provoquant des inondations dévastatrices. Les chiffres sont alarmants. Plus de 500 personnes ont péri et des milliers de familles ont vu leurs maisons emportées par les flots. En outre, plus de 400 000 hectares de terres agricoles ont été détruits, compromettant la sécurité alimentaire dans un pays où la faim touche déjà plus de 3,4 millions de personnes. Les infrastructures sont également paralysées avec des routes et des ponts submergés, rendant l'accès aux zones sinistrées particulièrement difficile pour les secours.
L'invité.
Il nous vient du Maniema, l'hôpital général de référence de Kailo, hôpital public de l'État, vieux bâtiment de la société Sakima, est dans un état de vétusté. En plus de ne pas avoir un bâtiment approprié, l'hôpital n'est pas équipé et manque des médicaments pour la prise en charge correcte des malades. Le médecin directeur lance ici un SOS. Invité de ce journal, Dr Dunia Asakamba, répond aux questions de Florence Kizalunga.
Docteur Dunia Asakamba Christophe, bonjour.
Bonjour madame.
Comment s'est fait la prise en charge des malades ici à l'hôpital général des références de Kailo?
La prise en charge de nos malades s'est faite dans de mauvaises conditions, vu la mauvaise construction, le non-équipement, vu que l'hôpital n'a pas d'appui. C'est pour cette raison que nous travaillons dans de mauvaises conditions et c'est ce qui fait à ce que nos populations puissent toujours crier.
Vous êtes un hôpital de l'État, le gouvernement provincial ne vous appuie pas?
Bien sûr, c'est comme si le gouvernement provincial ne pense pas que l'hôpital général de Kailo existe. L'hôpital qui a fait longtemps sans bâtiment, sans appui, sans et chose grave, la population pleure tous les jours. Mais pour cette occasion que nous remercions son excellence, le gouverneur de la province Moussa Kabankoubi, à son passage, a songé quand même à faire une visibilité à Kailo. Il nous a apporté ces 20 matelas plus le kit de labo. Et nous espérons qu'il ne va pas se limiter sur ça. Il va nous construire un bon bâtiment. Il va nous apporter des médicaments ainsi pour appuyer cette communauté de Kailo.
À qui appartient ces bâtiments que vous occupez aujourd'hui?
Le bâtiment que nous équipons actuellement, c'est l'ancien bâtiment de la société Sakima. Et c'est un bâtiment archaïque qui ne favorise pas une bonne évolution. Et avec cette façon de se présenter de ce bâtiment, il y a risque qu'un jour le mur de cette maison puisse tomber sur les malades et qui va nous créer des dégâts qui va défavoriser la survie de la population de Kailo.
Parlant de vous-même personnel, est-ce que vous êtes motivé? Vous avez des primes et salaires?
Par rapport aux primes et salaires, vraiment nous sommes abandonnés par le gouvernement. Le gouvernement ne songe même pas à nous envoyer le prime, on ne sait pas le pourquoi. Et nous continuerons toujours à sauver notre communauté, malgré quoi qu'il en soit, mais qu'il fasse un effort pour nous appuyer aussi. On ne sera pas demeuré dans de mauvaises conditions, or que pas les autres ailleurs se retrouvent, mais chez nous, ce n'est pas le cas.
Docteur, vu l'état de l'hôpital, une fois que vous avez un cas qui dépasse votre plateau technique, qu'est-ce que vous faites avec ces cas-là?
Tous les cas qui dépassent notre plateau technique, nous référons à Kindu, et même si nous référons, l'état des routes ne le permet pas, avec beaucoup de risques que les malades puissent décéder en cours de route.
Alors, qu'en est-il de votre maternité? Nous avons vu quand même dans votre maternité, vous avez des lits d'accouchement en grand nombre. Qu'est-ce qui manque encore dans votre salle d'accouchement?
Dans notre salle d'accouchement, il manque encore beaucoup de choses par rapport au kit d'accouchement, au bloc-op, par rapport aux couveuses qui nécessitent beaucoup de conditions. Et vu cela, nous continuerons toujours à faire accoucher nos jeunes mamans dans de mauvaises conditions. Vu encore la bonne fréquentation de notre salle d'accouchement, les mamans continuent toujours à dormir dans des nappes et qui va nécessiter encore besoin d'autres matelas pour leur survie.
Alors quand une maman, une femme qui venait d'accoucher dort sur une natte, vous ne voyez pas que l'enfant et la maman sont en risque?
Vraiment, l'enfant et la maman sont totalement exposés. C'est pour cette raison que nous plaidons au gouvernement en place provincial de nous appuyer et de nous participer dans beaucoup de choses.
L'hôpital a une ambulance?
Effectivement, l'hôpital a une ambulance qui roule, mais l'état de la route ne permet pas.
Docteur Dounia, est-ce que l'hôpital général est électrifié?
L'hôpital général n'est pas totalement électrifié. Il y a des fois que le système solaire que nous travaillons avec, ça s'éteint même en cours d'opération. C'est pour cette raison que nous comptons toujours que nous travaillons dans le noir. Appuyez-nous par rapport à la bonne permanence de la lumière à l'hôpital. Il y a des fois que nous opérons avec des torches ainsi que des lampes qui sont limitées par rapport à la bonne lumière. Il en est aussi pour l'accouchement. Nous dirigeons des accouchements avec des torches.
Est-ce que vous avez suffisamment de médicaments à l'hôpital?
Par rapport aux médicaments, nous n'avons pas les médicaments à l'hôpital. Les malades sont traités avec les ordonnances extérieures, choses graves malgré leur impossibilité qui peut causer des retards de la participation et ça nous crée des décès.
Docteur Dounia Asakamba Christopher, je vous remercie.
Je vous remercie aussi, madame.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.